Question d'islam par Ghaleb Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de soufisme, de conscience soufie, de voix soufie, de vérité. De vérité, qu'est-ce la vérité ? C'est le titre d'un ouvrage intitulé « Le jardin de la vérité » de Sayyid Hossein Nasr qui nous servira de base comme discussion avec l'islamologue Éric Geoffroy. Éric Geoffroy, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à l'émission. Parler aux auditeurs de la voix soufie et surtout vous avez préfacé le livre de Sayyid Hossein Nasr paru aux éditions Tasnim, Le jardin de la vérité, la perspective du soufisme, tradition spirituelle de l'islam. Vous êtes professeur à l'université de Strasbourg, vous présidez vous-même la fondation Conscience Soufie, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et préfacier et d'autres aussi, et vos écrits ont été traduits dans plusieurs langues, et notamment l'arabe et l'anglais. Vous connaissez le Sayyid Hossein Nasr, qui est-il au juste?
Alors Sayyid Hossein Nasr, il est né en Iran en 1933, c'est quelqu'un qui a eu un parcours intellectuel et spirituel précoce, c'est-à-dire qu'il a, je crois, à l'âge de 13 ans, il est envoyé par ses parents aux États-Unis pour étudier, et il va être dans des universités prestigieuses telles que Harvard, le MIT, MIT également, et il va s'orienter très tôt vers la philosophie des sciences. Et il va avoir un doctorat en philosophie des sciences, je crois à l'âge de 25 ans, donc c'est quelqu'un qui est très précoce. Et en même temps, il a cette ouverture spirituelle qui vient de son héritage iranien, traditionnel, familial, et il va très tôt être relié, donc si je puis dire, à Fridtjof Schion, donc ce grand auteur métaphysicien, maître spirituel, qui est mort en 1998, et donc qui a vivifié cette école qu'on appelle surtout aux États-Unis l'école perennialiste. En français, on parle plutôt d'école traditionnaliste. Évidemment, on pense à René Guénon.
Perennialiste, de cette sagesse pérenne, éternelle.
Tout à fait. C'est-à-dire qui a imprégné chaque culture humaine, culture au sens le plus noble, le plus spirituel, depuis le début de notre humanité. Et pour les perennialistes, eh bien, la modernité de type occidental, c'est-à-dire née au XVIIe siècle, eh bien, va être cette rupture avec la conscience multidimensionnelle, si vous voulez, qu'a eu toujours l'humain. Dans toutes les cultures possibles, les sociétés dites primitives comme celles des grandes religions du monde, jusqu'à il y a quelques siècles et voire quelques décennies, l'humain avait toujours une conscience multidimensionnelle. C'est-à-dire il y avait le spirituel ou le métaphysique, le psychique et le physique. Et ce qu'ils nous disent et ce qu'on constate malheureusement souvent, c'est que ce qu'ils nous disent ces auteurs perennialistes, c'est que voilà, l'homme moderne au sens donc de cette modernité européenne est à cette multidimensionnalité atrophiée. Donc il est mutilé de cette conscience spirituelle. Et l'émir Abdelkader, par exemple, un grand témoin du 19e siècle, en parlait en disant, il accompagnait le progrès technique des Européens, ce qui venait à chaque exposition universelle, fin des années 1860, 70, mais il leur disait, bon, c'est très bien, il suivait les progrès techniques, mais le ciel va se refermer sur vous. Alors, je voulais juste lui dire un mot par rapport à la modernité. L'islam, lorsque l'islam arrive au monde, il est très moderne.
Dans son sens étymologique, il suit son mode, voilà, en adéquation avec son temps.
Tout à fait. Il suscite même une mondialisation. C'est-à-dire, il investit tout le monde connu de l'époque. Donc, vous voyez, les termes modernité et même mondialisation ne sont pas Génériquement, pour moi, ne sont pas mal connotés, mais évidemment, quand on parle de ces notions, on pense à cette modernité, encore une fois, née en Europe, maintenant qui est largement exportée. Pensons à la Chine contemporaine ou à d'autres, qui est très consumériste, hein, et ailleurs, et qui va créer ce technoscientisme et ce dévoiement de la raison humaine, bon, la raison humaine qui a un don divin en islam, mais qui va être dévoyé vers un rationalisme productiviste, consumériste, etc. Enfin bon, ce qu'on connaît actuellement. Et donc tous ces auteurs, Chuon, Guénon, bien sûr, avant, et Cédric Sannas, s'insurgent, mais, et bien d'autres, et puis en Europe aussi, s'insurgent contre ce dévoiement de notre dignité humaine, en fait.
Vous avez évoqué Fritjof Chuon, et notamment son ouvrage « Le soufisme, voile et quintessence ». Il y a aussi l'introduction aux doctrines ésotériques de l'islam de Titus Burckhardt. Oui. Il y a aussi « Qu'est-ce que le soufisme ?» de Martin Links. Et notre ami Sayed Hossein Nasr dit quelque chose comme « Ce sont là des traités sur le soufisme et moi, en quelque sorte, je vous propose un traité soufi ». Quelle est la nuance ?
Lorsque Hallaj, qui est relativement connu et dont Louis Massignon a beaucoup parlé, est exécuté en 922 à Bagdad, les soufis comprennent...
Suite à un long procès,
d'ailleurs. Suite à un long procès, puis l'affaire Hallaj est compliquée, le personnage lui-même est compliqué, les soufis ont conscience qu'il faut être pédagogue, hein, et qu'il faut expliquer aux musulmans, donc on est au Xe siècle, donc quatrième de l'Égypte, il faut expliquer aux musulmans en quoi le soufisme est le cœur de l'islam, parce que c'était le leitmotiv. Hein. Et donc, ils vont, ça va marcher, si je puis dire, ils vont rédiger quelques manuels au XIe siècle. Je ne vais pas citer les noms, mais on a 4-5 auteurs majeurs. Et donc, ils vont montrer en quoi les sources scripturaires, Coran, et la parole du prophète et le sunna, donc l'exemple et le modèle mohammedien, sont les matrices du vécu spirituel de l'islam et du soufisme. Ce qui est beau avec ce livre de Nasr, c'est que il s'inscrit dans cette longue tradition, hein, parce que là on parle du XIe siècle. Mais avec, bien sûr, en actualisant, parce que l'adage soufi est bien connu, soufi ibn al-waqt, hein, donc le soufi est le fils de l'instant, ou bien soufi ibn al-waqtihi, le soufi est le fils de son époque. Hein, il y a les deux versions qui existent. Donc, le soufi vivifie toujours la présence divine, on va dire, à chaque instant, en chaque situation. Et c'est ce que fait Nasr, hein, il a des formules très, très, très belles, hein, c'est-à-dire, tout se joue, bien sûr, ici et maintenant, hein, et alors que dans la perspective religieuse, parfois, on est dans un maintenant avec un dieu vengeur, ou bien qui fait peur souvent, et qui fait peur donc du jour du jugement, donc dans un futur. Et pour le soufi, non, tout se passe maintenant, dans l'instant. Sans oblitérer ce qui est les fins ultimes, hein, bien sûr, de l'homme et de l'humanité, mais tout se joue maintenant et tout se joue en lui. Et Nasr le dit de manière très très claire, hein, c'est-à-dire la voix soufie dans les manuels dont je parlais a été jalonnée par les stations initiatiques, El Maqamat, par les états spirituels, et chaque auteur a donné un petit peu sa terminologie. Et finalement, ce que nous disent les maîtres, c'est que cette projection presque géographique, hein, de la voix...
Ou topographique,
voilà, topographique, spirituelle. En fait, elle est encore une illusion, parce que tout vient de nous et tout retourne en nous. Donc, il suffit de découvrir en nous cette présence, la hadara, donc la présence divine, la présence du prophète, l'être mohammedien, donc qui est en nous, et de le vivifier. Mais nous avons peur, et ça Rumi en parle bien, nous avons peur de nous réaliser spirituellement.
Oui, Rumi, c'est déjà le XIIIe siècle.
C'est le XIIIe siècle.
Ouais. Éric Geoffroy, partons de l'idée que aussi, c'est le soufisme, bien que le suffixe « isme » a toujours été problématique, mais parlons de la voie soufie, fait de celui qui est dans ce cheminement, dans ses pérégrinations, dans cette itinérance, quelqu'un qui vit « iketnunk », mais donc c'est l'ici et maintenant qui est important. Il y a aussi cette idée du goût, de la saveur. Donc ce sont des choses qu'on goûte. C'est par intellection gustative. Comment le soufi vit-il cette présence ?
Tout enseignement soufi, qu'il soit écrit ou bien oral a fortiori, est ce qu'on appelle opératif. C'est-à-dire, il a pour but d'être opératif. L'œuvre d'Ibn Arabi, hein, avec la complexité qu'elle a, avec l'héritage néoplatonicien, hein, dans certains outils, je dirais intellectuels pour le coup, ne vise qu'à la réalisation de l'humain. Hein, donc, à ce que l'humain devienne l'humain accompli, El Insan El Kamil. Et de fait, il y a un adage soufi aussi, hein, qui tient en trois mots, Man Zaka Araf, hein, seul celui qui goûte connaît. Donc le soufisme n'est pas une philosophie. N'est pas une, vous voyez, une approche, enfin, bien sûr que le mental joue son rôle d'outil, mais, très vite, hein, c'est cette gustation, en effet, intérieure, cette intelligence du cœur, parce qu'on peut parler d'intelligence, mais du cœur, hein, qui fait que on va avoir des grands saints, et les plus grands saints pour moi, ce sont peut-être les ummis, hein, c'est-à-dire des gens qui, alors, illettrés en apparence, mais en fait surlettrés. C'est-à-dire qu'ils reçoivent de Dieu des sciences, et on a des exemples tout à fait pratiques de l'histoire du soufisme, des gens qui souvent d'ailleurs étaient des simples artisans, vous voyez, je pense à l'un ou l'autre exemple, mais qui du coup, comme ils étaient dans cette transparence donc du mental, dans cette virginité du mental, reçoivent pardon, mais par pure grâce, des sciences spirituelles et même autres. Et bien sûr, ces gens-là sont sur les pas de El-Nabi, El-Ummi, c'est-à-dire le prophète surlettré, je ne sais pas comment il faut le dire. Donc c'est un type de sainteté qui est extrêmement fort. Et donc ça pour dire que le bagage intellectuel peut parfois même peut poser problème. Si on prend un exemple historique, hein, c'est le grand savant qui est mort en 1206, Fakhreddin Errazi. Et son nom d'abord, hein, son prénom, Fakhreddin. Hein, voilà, c'est-à-dire la brillance de la religion. Oui.
Il y a aussi une notion d'infatuation.
Voilà, d'infatuation, parce qu'on sait qu'il portait des habits. Voilà. Eh bien, il se dit un jour, je vais me faire mettre en khalwa, donc en retraite spirituelle, bon, par un cher soufi, donc ça c'est tout à fait historique, et il y va. Et le cher le fait rentrer donc en retraite spirituelle, et il par son pouvoir spirituel, il dépouille donc Razi de toutes ses sciences. Et pourtant, sciences islamiques, hein, mais sciences acquises. Science rationnelle,
hein, oui, formelle. Avec une approche discursive.
Tout à fait, la discursive. Et Razi panique. Razi panique parce qu'il se retrouve tout nu. Hein, dans cette nudité primordiale, dans cette nudité spirituelle. Et d'après la tradition, d'après Ibn Arabi en parle d'ailleurs, il ne supporte pas, il demande au cheikh qu'il lui remette ses habits, y compris ses habits physiques. Hein, et Fakhreddin s'en va, mais après, il aura donc des paroles sur le soufi très, très positives. Lui qui était un grand esprit rationnel, il faut le dire, un grand commentateur du Coran. Vous voyez donc les rapports entre raison et supra-raison, hein, entre raison et ce que le soufi appelle donc l'ilham, donc l'inspiration, le kashf, donc le développement spirituel, sont parfois complémentaires et parfois en opposition, suivant les étapes, hein, suivant l'évolution de la personne, donc de chacun d'entre nous.
Et puis, il va y avoir le dévoilement. Ça, il faut une préparation pour pouvoir accéder à ces connaissances ou c'est une grâce?
Les deux à la fois. Vous savez, la méthodologie soufie, c'est pas le oui ou non, c'est oui et non. Et qui est beaucoup plus productif, qui est beaucoup plus inclusif, et qui répond à la rahma, à cette miséricorde, hein, qui enveloppe toute chose, hein, comme dit le Coran, et donc, et qui n'est pas un exclusivisme. C'est oui ou non, et ça, c'est la démarche de certains mouvements, enfin, de certaines consciences musulmanes, ou bien dites musulmanes, on ne le sait que trop. La conscience, je dirais, spirituelle en islam, et soufie en particulier, est dans cette générosité de l'acceptation de l'autre, parce que Dieu seul juge, et parce que, comment dire, il y a, chaque âme évolue, et un maître spirituel sait très bien ce qu'il peut dire, ce qu'il peut faire à son disciple. Donc, c'est à la fois, oui, c'est, rien ne se fait sans grâce divine, et il y a un adage soufi qui nous dit que chaque cheminant sur la voie soufie est appelé mouride, hein, de façon générique, c'est-à-dire.
Un aspirant.
Un aspirant, voilà. Celui qui cherche à se rapprocher de Dieu, donc ça vient de el-irada, donc la volonté. Mais tous les maîtres nous disent, mais avant d'être mourid, nous sommes mourad, nous sommes donc le voulu par Dieu. Avant de vouloir Dieu, eh bien, il faut qu'il y ait cette énergie et ce moteur divin qui fasse que par amour, par pur amour, il vient vous chercher. Donc tout cela reste de l'ordre du raïb, hein, du mystère évidemment, et Dieu sait mieux quand il peut ouvrir. On parle de fatre, donc ouvrir à telle personne, homme, femme, et sans parler des autres règnes, animal, végétal, etc., quand il peut ouvrir les portes de la perception, pour reprendre.
En vous entendant, Éric Geoffroy, j'ai pensé à ce soufi à qui on a dit, mais que veux-tu ? Il a dit, je voudrais ne plus vouloir.
Ne pas vouloir, ça c'est donc Abou Yazid Bistami.
Bistami, bien entendu.
Ouais, tout à fait, ouais.
C'est cette histoire du oui et du non qui m'a fait penser à ce dialogue rapporté par Ibn Arabi en autoréférence, c'est lui seul qui dit, quand il a rencontré le maître andalou à Véroès,
oui.
Quand il lui a dit d'abord oui, après non,
oui.
Et après, je ne vais pas rentrer dans les détails, et il lui avait ajouté, entre le oui et le non, les nuques se détachent de leur cou et les... Et quelque sorte, les corps se spiritualisent
tout
et les esprits se corporalisent.
Tout à fait. Oui, mais cette rencontre est archétypale, on peut dire, hein, vraiment. Il faut voir qu'Averroès, donc ça se passe à Cordoue, Averroès est âgé, et il a entendu parler de ce jeune qui a 16 ans, hein, qui était encore imberbe, nous dit l'Arabie, enfin, qui a eu un fatre, justement, et il le fait venir, donc, chez lui. Et voilà. Et voilà ce jeune, donc, de 15-16 ans, d'après les sources, hein, qui donne une leçon, entre guillemets, hein, bon, à ce grand esprit, hein, qui est donc Averroès. Et moi, ça me fait penser directement à ce passage coranique, donc, de la sourate Kahf, donc, de la caverne, sourate 18, où celui que la tradition islamique désigne comme Al-Khidr ou bien Al-Khadir, hein, mais que le Coran ne nomme pas, hein, comme par hasard, et qui va être le maître de Moussa.
Al-Khadir, c'est l'homme verdoyant.
L'homme verdoyant. Donc,
identifié à Élie.
Oui, voilà. Donc, cet être, en fait, un être humain, bien sûr, mais dont la vie est prolongée. En fait, il est mort. Donc, il est dit Muammar. Donc, la vie est prolongée jusqu'à la fin des temps. Et il a été, il est, il sera, donc, l'initiateur des prophètes par le passé. Et des humains, je dirais, actuellement. Et donc, dans ce passage coranique, El-Ridr est vraiment le maître spirituel de Moïse, qui est le prophète de la loi, donc du monde des formes, avec sa science propre à lui, mais qui, quand même, dans le passage coranique, à plusieurs reprises, hein, comme on le sait, El-Ridr lui dit que tu n'auras pas la patience. Donc, El-Ridr sait déjà que Moïse n'aura pas la patience, qu'il lui dit plusieurs fois, le sabr, qui est une vertu islamique majeure, de comprendre la réalité ultime du monde. Parce que Moïse, évidemment, s'en remet au monde des apparences, c'est-à-dire au monde du décalogue, au monde du... Et c'est une véritable leçon. Et cette relation entre le Khidr et Moïse est archétypale également aussi dans la relation de maître à disciple dans le soufisme.
Quand il y a l'enseignement par l'absurde, comme on dit parfois.
Ben oui, bien sûr, et par le paradoxe. Hein, parce que voilà, le Khidr tue un jeune homme, coule un bateau, etc. Hein, ce mot revient deux fois dans ce passage coranique. C'est-à-dire l'interprétation première et dernière, hein, c'est-à-dire ésotérique, évidemment, divine, de ce qu'il fait, parce que pour lui, le temps n'existe pas. C'est-à-dire le passé, présent, futur sont, comme le dit la physique quantique maintenant, hein, il n'y a plus de temps maintenant, on lui dit. Eh bien, voilà, ces êtres-là, tout se déroule ici et maintenant. Dans l'instant, tout est présent.
Pour ne pas laisser les auditeurs comme ça à propos de ce dialogue à la fois pathétique, court, entre le jeune Ibn Arabi et le maître Averroès, quand il lui avait dit entre le oui et le non, les nuques se détachent de leur cou, Averroès a tapé entre ses mains en disant « il n'y a de force et de puissance que par Dieu ». Qui est une formule consacrée. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous parlons de conscience soufie, du soufisme, du Jardin de la Vérité qui est le titre de Sayed Hossein Nasr, ce traité soufi dont Éric Geoffroy est le préfacier. Éric Geoffroy est islamologue, professeur à l'université de Strasbourg et président justement de la fondation Conscience Soufie. Éric Geoffroy, dans cette première partie de l'émission, vous avez évoqué l'homme accompli, l'homme parfait, l'anthropos téléios des Grecs. C'est quoi? C'est un point à l'horizon vers lequel tendent les soufis dès ici-bas, ou c'est un retour à l'homme archétypal? C'est quoi cette notion de l'homme parfait ou l'homme accompli?
L'expression arabe « el-insan el-kamil », donc voilà, l'humain accompli, n'est pas propre au soufisme parce qu'on la trouve également chez Miskawai, par exemple, enfin, chez des éthiciens.
D'aucuns osent dire des humanistes.
Voilà, exactement, tout à fait des humanistes.
Adeptes de l'adab.
Exactement.
Qui est une sorte de courtoisie littéraire.
Oui, mais c'est l'homme bien fait, plutôt qu'un.
Le gentil.
Dont parle Montaigne également. Hein. Enfin, c'est-à-dire l'homme intégral au sens où c'est cet être qui ne fait pas de césure entre la conscience spirituelle et l'intellectualité, hein, au sens le meilleur. Or, cette césure, voilà, elle s'est opérée, dans la plupart des cas, dans le monde moderne. Alors, dans la conception soufie, c'est le fait de, bon, comme le dit le Coran, que Dieu a anobli les fils d'Adam, donc les humains, que nous avons une source divine, parce qu'en islam, il n'y a pas de scission entre le spirituel et le matériel, hein, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de péché originel, ou bien l'équivalent. Bon, d'ailleurs, bon, maintenant, les chrétiens disent de plus en plus que c'est cet Augustin qui l'a introduite, et il voudrait bien se débarrasser, d'ailleurs, de cette idée qui plombe un petit peu le dogme, enfin, eux-mêmes le disent. Alors voilà, donc, c'est ce fait que nous avons connu Dieu dans le monde de l'indifférenciation avec lui, c'est-à-dire dans le monde de l'unicité, et qu'il y a eu cette chute sur Terre. Hein, bon, il y a un verset coranique, hein, comme on le sait, elle est au bout. Hein, bon,
c'est donc,
Une descente, voilà, dans la dualité. Voilà, homme-femme, chaud-froid, santé-maladie, toutes ces dualités qui nous tiraillent souvent. Eh bien, le travail du soufi, c'est de remonter dans l'unicité, ici et maintenant, encore une fois, c'est-à-dire ne pas attendre la mort physique, ou bien comme certains musulmans ou bien croyants pieux, à un âge avancé, vous savez, on se remet, on va à la mosquée, etc. Bon, non, le soufi
même accomplir le pèlerinage.
Voilà, juste avant.
Implorer le pardon divin.
Voilà. Le soufi, au sens, celui qui est donc conscient, donc, de cette présence divine, qui est à la fois complètement transcendante et complètement immanente, à la fois, et Ibn Arabi insiste là-dessus, qu'il ait 10 ans, 40 ans, 70 ans, voilà, il sait bien, il se rend compte que c'est ici et maintenant, encore une fois, qui doit travailler, alors bon, par le zikr, mais évidemment, bon, encore une fois, bon, par la grâce, mais par l'invocation de Dieu, par ces états de conscience qui sont développés. Il ne s'agit pas de sortir, hein, donc c'est pas du tout de la transe, hein, parce que parfois il y a une confusion. Parfois certains croient que le zikr que pratiqué par les soufis est une sorte de transe. Non, la transe c'est une sortie de notre conscience. Le soufi travaille au contraire à développer sa conscience spirituelle. Donc c'est pas du tout un échappatoire, je dirais, à la réalité. Et pour ceux qui ont fréquenté des maîtres soufis ou bien des êtres un petit peu éveillés, ils voient à quel point ils sont pragmatiques. Ce sont des gens qui, parce que justement, ils ont développé la perception de la hakika, hein, donc cette réalité, avec ces différents niveaux de l'être. Hein, donc, du plus métaphysique au plus physique.
Oui. Éric Geoffroy, revenons au titre de l'ouvrage, Le Jardin de la Vérité. Il y a la symbolique du jardin, du paradis, et aussi les notions de vérité. Encore une fois, la question fondamentale qui taraude tous les êtres humains et auxquels ils sont confrontés, c'est la question des origines, la question aussi des fins dernières, le sens de la vie. Et ça, on le trouve dans un lieu, une sorte de Shambhala. Vous qui avez évoqué tout à l'heure cet être mystérieux, le verdoyant, dont on nous dit qu'il serait là, dans l'équivalent du Shambhala islamique.
Vous savez, le royaume intérieur, hein, bon, comme disait le Christ, c'est le cœur. Et dans l'anthropologie...
Qui est l'organe de perception par excellence.
Voilà, voilà. Dans l'anthropologie islamique et coranique, hein, et donc spirituelle, et donc soufie, c'est le cœur, et le prophète en parle aussi, hein, dans des très beaux hadiths, des très belles paroles, c'est le cœur qui est l'organe, en fait, de réception de la lumière divine, hein. Et donc il y a ce beau hadith où le prophète nous dit que le cœur rouille que comme rouille le fer, et qu'il faut polir le cœur, hein, il faut nettoyer pour le rendre un réceptacle capable de Dieu, hein, par le zikr, hein, donc par le souvenir invocation de Dieu,
c'est la mémoration,
tout à fait. Donc bon, on trouve ça de manière très forte aussi chez Razali et chez tous les soufis, parce que voilà, c'est l'organe central, l'intellect et le mental surtout n'étant que des outils. S'ils sont bien dirigés, bien orientés par le cœur, eh bien ils vont avoir un rôle positif. Et si c'est pas le cas, le mental, ben on ne sait que trop, va vous troubler, va vous emmener dans des labyrinthes, ou bien dans des voies de garage, comme on dit. Voilà. Donc c'est le cœur. Et alors un mot sur le titre. Évidemment, là on sent la fibre iranienne, donc de Nasr, puisque voilà, c'est un Iranien qui est vraiment imprégné de cette grande culture iranienne pré-islamique et islamique. Et donc chez tous ces mystiques persans, avant l'islam même, et l'islam va faire fructifier ça, on parle du jardin justement, et voilà, et il y a cette image donc du jardin qui revient très souvent, hein, chez Hafiz également, ou chez d'autres, et parce que dans l'âme iranienne, il y a une grande nostalgie. Ben, Rumi est iranien aussi, donc il est des Balkhs, hein, et donc il y a une grande nostalgie. Je pense que c'est un peuple, bon, globalement parlant évidemment, hein, qui a en effet ça affleure dans leur conscience cette grande nostalgie de la patrie, hein, dont parlait aussi Novalis, de notre vraie patrie. Ce monde d'ici-bas n'étant qu'une voie de passage,
une Pâque, une traversée,
voilà, une traversée, voilà, avec ses tribulations, avec ses beautés également, mais toujours, donc pour le soufi, il s'agit de voir dans ce dunya, donc dans ce bas monde, dans lequel Dieu se révèle en permanence, il faut voir de la beauté du monde, parce que le monde est beau pour celui qui voit la beauté. Il faut voir la trace de Dieu en tant que El-Jamil, le beau. Et donc Nasr, là-dessus, est extrêmement clair. Je vais insister un petit peu sur son aspect donc de pédagogue. Moi, je recommande, et je le dis un petit peu dans ma préface, je recommande encore, lorsqu'on me demande un livre généraliste sur l'islam, et pas sur le soufisme, mais sur l'islam, eh bien, Islam, perspective et réalité, qui est un livre ancien, parce que comme Nasr a été très précoce, mais qui, et pourtant traduit de l'anglais, mais qui est d'une clarté et d'une exhaustivité très, très belle. Et il va être réédité d'ailleurs bientôt chez Tasnim. Et c'est rare, je veux dire, dans un livre traduit, de trouver cette clarté d'expression, cette pédagogie, encore une fois. Et voilà. Alors, un petit mot, si je peux me permettre, sur...
Je vous en prie.
Moi, Nasr, bon, bah, j'étais jeune chercheur de vérité, et puis jeune chercheur aussi académique, et j'entendais parler de Nasr, parce que comme il écrit très tôt, et donc je ne le connaissais pas, et j'étais impressionné. Et je l'ai connu, au Maroc, en Turquie, et j'ai été lui rendre visite à Washington, donc dans son université, donc dans son bureau. Donc au début, et je lui ai dit, bon, j'étais impressionné, parce que, bon, Nasr, voilà, représentait pour moi, bon, une complétude, je dirais, à titre humain, bien sûr, à la fois au niveau, enfin, justement, cette complémentarité entre l'intelligence, enfin, entre spiritualité et intelligence humaine, qui est, bien sûr, encore trop rare chez les humains, entre autres contemporains. Et voilà, et donc, les quelques fois où je l'ai vu, en même temps, il y avait cette immédiateté, hein, qu'on sait mettre, parce qu'il a un rôle initiatique, il est maître spirituel, et aussi, donc, il a formé, dans cette belle intellectualité, il a formé un certain nombre de personnes. Donc, il a transmis quelque chose, ce qui n'est pas le cas, même dans le soufisme. Parfois, certains maîtres ne transmettent pas, parce qu'il n'y a personne après eux. Et que dire dans le domaine intellectuel où certains penseurs musulmans, finalement, n'ont pas voulu, n'ont pas pu transmettre. Donc l'idée de transmission est importante, surtout que dans cette école doctrinaliste, mais dans, je pense, dans une conscience religieuse assez générale, bien évident que nous sommes à la fin d'un cycle, à la fin d'un monde, non pas du monde, mais d'un monde. Et beaucoup de maîtres insistent sur cette nécessité donc de transmettre. Il y a comme une urgence. Et je pense que ce livre de Nasr s'inscrit aussi dans cette nécessité de transmettre.
Alors, Éric Geoffroy, vous avez évoqué l'amour du beau, la beauté salvatrice, la beauté aussi comme viatique, le fait de contempler et de méditer sur les splendeurs de la création, ça aide à s'unir à l'être premier, au créateur, à l'existentiateur de ces splendeurs et aussi de l'univers.
Oui, bien sûr, parce que bon, le verset nous parle des ayats, hein, donc des signes versets que Dieu envoie en permanence, mais sommes-nous présents à nous-mêmes pour les percevoir, hein? Ça, c'est la question. Et alors, ça s'était formulé par Ibn Arabi notamment, mais par d'autres soufis, en termes de tajalli, c'est-à-dire Dieu se théophanise, oui, se manifeste à chaque instant, et Ibn Arabi nous dit que Dieu ne se répète jamais. Il ne se répète jamais. Donc, il se théophanise, donc, dans des réceptacles, hein, X ou Y. Ça peut être un animal, un brin d'herbe, un bel humain, un beau paysage, enfin, tout ce qu'on peut, enfin, ce qui nous apparaît comme beau, mais aussi ce qui peut nous apparaître comme négatif. Il faut le trouver là aussi, parce que Dieu est un. Et donc, l'expérience spirituelle dans le soufisme permet, bon, généralement, justement, d'affiner cette perception. Et je dirais que Dieu travaille dans le détail, c'est-à-dire dans des choses très immédiates. Très immédiates, et ça peut être évidemment un flash de seconde, ou bien, comme dit le Coran, comme un clin d'œil. Hein. Mais ce clin d'œil va imprimer en vous un travail intérieur qui fait que, au bout de quelques semaines, mois ou années, ou peut-être avant de mourir, vous allez, ah oui, c'était ça. Hein, c'est ce que j'ai vu. De même que l'on dit dans le soufisme, et c'est une réalité, le regard d'un être réalisé, que pas d'être réalisé, c'est au sens large. Ça peut être un simple extatique, un majzoub, hein, qui
ravi à lui-même.
Voilà, ravi à lui-même, voilà. Ou bien votre maître spirituel, ou bien notre maître spirituel. Un regard suffit pour c'est un regard chargé qui va travailler en vous pendant.
Alors, à propos de la beauté, donc il y a la notion de l'émerveillement, de l'éblouissement, de la contemplation de ce qui est beau et qui mène justement à l'extase, même si vous avez dit que le soufi reste conscient de lui-même et donc il sort pas de sa propre conscience.
Oui.
C'est un aspect, il y a l'autre aspect qui va de pair. Pour d'aucuns, il est peut-être un peu galvaudé, mais dans la voie soufie, c'est une nécessité, c'est l'amour.
Oui, l'amour, alors évidemment, il faut... Bon, le terme français est souvent faible, et puis surtout, il y a peu de termes. Bon, il y en a quelques-uns, mais en arabe, il y a 60 mots, hein, pour désigner l'amour dans telle ou telle...
configuration, situation.
Voilà, configuration, voilà. Et... Alors, l'amour, c'est l'énergie. En fait, c'est une énergie. C'est une énergie vitale, c'est une énergie divine. L'amour, l'initiative. On ne peut aimer Dieu que si Dieu nous aime. Et ça, Rumi est très clair là-dessus. Et donc, toute initiative, encore une fois, comme c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de Mourid, Morad, toute initiative vient de Dieu. Mais encore faut-il être présent à nous-mêmes. Donc, et ainsi à Dieu, parce que la présence spirituelle, bien sûr, jamais substantielle en islam, mais la présence divine est en nous, mais sommes-nous présents, encore une fois, donc à nous-mêmes. Et si c'est le cas, de fait, il y a cette énergie qui vous pousse, et en fait, on n'a pas le choix. Et cette énergie, ben, alors des fois, elle vous dérange, parce que on aimerait être dans la distraction au sens coranique, hein, elle rafla, ou bien au sens pascalien, hein, on voudrait, bon, même si je suis croyant, ça, mais on ferme le rideau un moment, voilà, et parfois, chez certains êtres en particulier, ou bien à certains moments, elle est toujours là et qui vous titille. Hein, qui ne vous lâche pas, comme un aiguillon.
Enfin, ma question, c'est que notre ami, le maître Sayyid Hussein Nasr, réunit les notions d'amour et de beauté.
Oui, oui.
Donc, oui. Alors, j'ai commencé par poser ma question à propos de la beauté comme un préalable ou une sorte de, quand on est émerveillé par les splendeurs et par la beauté, est-ce que ça ouvre le cœur à l'effusion de l'amour humain et de l'amour divin?
Vous savez, il y a ce hadith, enfin cette parole, hein, le prophète passe avec des compagnons près d'une carcasse d'un chien, on nous dit, hein, voilà, bon, sans doute déjà donc passablement décomposé, et les compagnons disent en gros burk, quoi, enfin bon, quelle horreur, et le prophète dit quelle beauté, hein, regardez les dents, hein, les dents de cette charogne, des dents blanches. Quelle beauté! Voilà, donc la beauté, elle est, encore une fois, elle n'est pas uniquement dans une belle mosquée, une belle zawiya, une belle église, une belle, ou bien chez un bel être. Vous voyez ce que, apparemment, la beauté, la voie spirituelle nous amène à creuser en nous, ce qui n'est pas toujours facile, le paradoxe. Parce que Dieu se perçoit dans le paradoxe. Dieu est à la fois dans beauté et laideur. Hein, parce que sinon, c'est trop facile. Sinon, j'ampute ma conscience de toute une partie de l'unicité. Dieu étant un, eh bien, Dieu se manifeste dans toutes les situations humaines, psychologiques, visuelles, physiques, etc. Et si je ne reconnais que dans un pan de la réalité, eh bien, je suis donc déficient, au niveau spirituel.
Parce que les réalités divines sont, comme on le dit, siège aux coïncidences des oppositions, la coincidentia oppositorum.
Oui, parce que, voilà, comme nous partons, donc on l'a dit tout à l'heure, comme nous partons de notre dualité d'être incarné. Bon, et ça, c'est une sagesse divine qui fait que... Et donc, il faut résorber cette dualité dans cette remontée vers le divin, vers le un. Et c'est pour ça que dans le soufisme, il n'y a pas d'union mystique. Par exemple, comme on le trouve, c'est les saintes chrétiennes qui portent un anneau, elles sont mariées à Jésus. Hein. Il n'y a pas d'union mystique, hein, qui est parfois presque érotique, hein, enfin, au sens le plus noble du terme. L'expérience spirituelle dans le soufisme, c'est de réaliser qu'il n'y a que le un. Et c'est ce que Junaïd a appelé, et beaucoup d'autres après, el fana fi tawhid, c'est-à-dire l'extinction de notre conscience individuelle, incarnée, individuelle, dans l'immersion, dans l'océan de l'unicité. Et tous les ulamas et tous les théologiens ont validé cette expérience parce que c'est vivre l'islam.
Oui, cet anéantissement, cette extinction, cette coalescence dans l'un a donné lieu, si j'ai bien compris, à la théorie, à la doctrine, à la vision. Je ne suis pas en train de parler d'un soufisme d'un point de vue théorique, de l'unicité de l'être. C'est parce que, in fine, s'il y a un je humain et un tu divin ou vice-versa, c'est qu'on n'est plus dans l'unicité. C'est qu'à un moment donné, la conscience humaine va s'anéantir dans une conscience cosmique divine.
Oui, et c'est ce qui fait que, bon, c'est ce qu'on appelle, bon, mais ça, c'est un terme un peu technique, hein, le shat, enfin, c'est-à-dire le propos extatique.
Des apophtègmes extatiques.
Voilà, c'est-à-dire, lorsque, dans l'expérience de l'humain, fut-il le plus grand saint, il ne sait plus, parfois, et il s'en confesse, parfois, après coup, si je puis dire, qui est le « je » qui parle, le « ana » en arabe, par exemple, hein, est-ce que c'est encore le « je » humain, ou est-ce que c'est cette présence, le « je » avec un « j » majuscule, voyez-vous? Et c'est une expérience comme troublante, parce que qu'on parle de Hallaj, qu'on parle de Junaïd, qu'on parle de Cheikh Alaoui, qu'on parle de, voilà, d'être comme ça, d'être réalisé. Voilà, ils témoignent parfois de leur haïra, donc de leur grande perplexité, de leur éblouissement. Qui est cette conscience qui est en moi? Est-ce que c'est encore mon humanité? Hein, ce Ahmed el-Alaoui, Mansour el-Hallaj, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui me déborde complètement, parce que chataha en arabe, c'est, on l'emploie notamment parce que le lit d'un fleuve déborde. Vous voyez, donc c'est ce débordement de la présence divine dans ce réceptacle humain qui, bon, malgré que l'humain donc a été donc créature élue, donc représentant de Dieu sur terre, est quand même une créature fragile à bien des égards. Thank you.
l'islam sur France Culture dans l'émission Questions d'islam avec l'islamologue Éric Geoffroy qui préside la fondation Conscience Soufie et nous parlons justement de cette conscience à la fois d'une manière générale et d'un point de vue prosaïque, en tout cas à travers mes questions, mais aussi parce que vous, Éric Geoffroy, vous avez écrit la préface de l'ouvrage intitulé « Le jardin de la vérité » de Sayyed Hussein Nasr, le maître encore vivant iranien. Et c'est un traité soufi, et encore une fois, et ce n'est pas un traité sur le soufisme, comme certains peuvent présenter les choses. Dans cette dernière partie de l'émission, Éric Geoffroy, je voudrais faire avec vous un peu l'exégèse de l'ouvrage. Qu'est-ce que c'est que cette notion donc de jardin de la vérité, et comment y parvenir?
C'est notre espace intérieur.
Encore une fois.
Voilà, c'est un espace intérieur. Vous savez, un adage des premiers soufis, mais qui n'est pas très connu, à l'époque de Junayd, il dit en deux mots, deux mots, ce sont les apophthegmes, comme vous disiez, les aphorismes des premiers, qui sont extrêmement lapidaires, mais très directs. Et tasawwuf al-hurriya. Le soufisme, c'est la liberté. Alors, c'est pas la liberté d'aller faire n'importe quoi dehors, mais non. C'est bien sûr, c'est dégager en soi l'espace de liberté intérieure. Quelle que soit ma condition d'incarnation, que je sois prince, ou bien simple artisan, riche, pauvre, etc., etc. Donc, dans toutes les conditions possibles et inimaginables, même imaginables, pardon, de notre mise au monde, je dirais, eh bien, c'est cette idée que je suis avant tout un être libre parce que j'ai conscience que je suis d'origine et que je suis de nature divine. En islam, il faut le dire aux musulmans, je crois que l'homme n'est pas Dieu, mais l'homme est divin. Par
il est déiforme et vicaire de Dieu sur terre.
Il est vicaire de Dieu sur terre, il est représentant de Dieu sur terre. Alors, évidemment, les passages coraniques en sourate 2, verset 30, évidemment, sont très, très paradoxaux aussi, parce que les anges savent que Iblis, même Satan, sait très bien, parce que c'est un gnostique, ils savent très bien ce que l'homme va faire, répandre le sang sur terre, la corruption, de fait, mais la fin de ce scénario coranique se fait au sens où Dieu dit aux anges « Je sais ce que vous ne savez pas ». Donc il y a un projet divin concernant l'humain et qui nous dépasse, et surtout à notre époque où on voit que comme l'homme détruit la planète et se détruit lui-même, ou bien change d'humanité, voilà, il y a ce projet divin qui nous dépasse et qui est dans un au-delà d'une foi qui serait uniquement, je dirais, piétiste ou bien comptabilisante, parce que c'est ce qu'on entend souvent, dans certains milieux musulmans, tu fais telle action, tu auras tant de, etc. Non, là, ce qui nous intéresse, c'est cette...
Pardon, Éric Geoffroy, elle est à la fois comptabilisante et culpabilisante.
Et culpabilisante.
Donc, on est dans une approche à la fois quantifiée des bonnes actions. Si on en fait tant, on va jouir des délices paradisiaques, et si on n'en fait pas, on va périr par le feu de l'enfer.
Voilà. Et là, donc, on a une femme, il faut rappeler, donc Rabia el-Adawiya, qui meurt en 801. Donc, une femme qui meurt, qui vit avant l'an 800. Donc, c'est vraiment les débuts. Et qui dit aux gens, aux hommes de son temps, mais vous adorez Dieu par peur de l'enfer et par désir du paradis, qui sont des idoles, parce que ce sont encore des créations, ce sont des créatures. Donc elle va imprimer de la conscience musulmane, une femme, elle va imprimer donc dans cette conscience musulmane toujours cet au-delà d'eux. On est d'ailleurs dans cette démarche apophatique, c'est-à-dire Dieu est toujours au-delà de nos perceptions et de nos désirs, fussent-ils du paradis.
Oui. Et c'est toujours la Biha, puisque je ne résiste pas à évoquer le fait qu'on l'a rencontrée avec un seau d'eau dans une main et une torche dans l'autre, et on lui a dit « Mais oh Rabia, que fais-tu par là ?» Elle a dit « Je vais éteindre le feu de l'enfer et incendier le paradis. » Et elle a commencé à déclamer son fameux poème des deux amours.
Oui.
« Je t'aime de deux amours, un amour visant mon propre bonheur et un amour vraiment digne de toi. » Quant à l'amour de la passion, c'est que je ne m'occupe à ne penser qu'à toi. Et quant à l'amour vraiment digne de toi, c'est que tes voiles tombent et que je te vois. Ni en l'un ni en l'autre, nulle gloire pour moi, mais louange à toi et pour celui-ci et pour celui-là. Voilà, ça c'était un peu du
arabia traduite.
Oui, oui, mais c'est, oui, ces êtres, ils sont présents. Je veux dire, bon, c'est Nasr al-Nasr est vivant, bon, et merci à Dieu, je veux dire, mais, donc physiquement, bon, il est âgé maintenant, évidemment. Mais vous voyez, l'enveloppe corporelle et la présence au monde est très relative. Et en islam, la mort n'est qu'un intikal, n'est qu'un transfert d'un état à un autre. Et donc, ces êtres...
Et même un réveil, puisque les gens sont endormis.
Voilà. Exactement.
Ils, et quand ils mourront, ils se réveilleront.
Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et justement, donc, le travail du soufi, c'est de se réveiller avant cette mort physique. Parce que il y a comme des états post-mortem qui ne pourront être réalisés que si on a travaillé dans notre état actuel. Vous voyez, donc il y a une responsabilité et les maîtres, qui est forte. Et les maîtres spirituels, je pense à Abou Hassan al-Shazili, par exemple, donc, qui est mort en 1258, ils sont parfois un peu durs. Ils disent, voilà, celui l'humain qui meurt sans avoir réalisé, sans avoir pris part, ne serait-ce qu'un petit peu à notre science spirituelle, il est comparable à l'humain qui meurt en état de grand péché sans s'être repenti. Bon, ça peut paraître dur, et surtout pour notre époque.
Oui. Peut-être un mot sur ce qui paraît aussi paradoxal, mais en réalité, me semble-t-il que c'est plutôt une complémentarité. C'est à la fois l'origine pulvérale, donc de poussière argileuse, fétide, d'un liment crissant, qui est l'enveloppe charnelle, en même temps... c'est aussi un ennoblissement par cette dimension pneumatique du souffle divin qui élève l'homme à l'état de déité.
Ben, ça, c'est le paradoxe de la nature humaine. Et je dirais, bon, je dis souvent, enfin, que parmi les créatures, et donc parmi les règnes, angéliques, humains, djinns, animaux, etc., l'humain est sans doute la créature qui a le spectre le plus large. Hein? Alors, vers le plus haut, c'est le prophète Mohammed, par exemple, qui, lors de son mi'raj, lors de son ascension spirituelle, céleste, eh bien, laisse l'archange Gabriel, à un moment, donc au jujubier de la limite, et lui continue. Donc là, c'est l'état humain accompli. Et bien sûr, chez d'autres prophètes, chez le Christ, chez Moïse, et puis les saints de notre humanité. Et puis le plus bas, c'est, notamment ce qu'indique le Coran, ceux qui sont plus bas que les an'am, que les bestiaux. Et le Coran ne parle pas des hayawan, parce que le hayawanat, donc l'animal, est un être noble en soi, qui en islam.
Et qui est animé, vivant.
Voilà, donc vivant. Tandis que l'an'am, bien sûr, c'est les bestiaux. Donc l'humain a un spectre extraordinaire, mais déconcertant. Hein, cette sublimité qui peut contenir son revers, et c'est pour ça que les plus grands saints disaient toujours, et disent toujours que jusqu'à mon dernier souffle, je suis très prudent, parce que la ruse divine, donc je peux tomber.
Parce qu'il y a une gamme aussi pour les différentes stations de l'âme qui va depuis l'âme instigatrice du mal jusqu'à l'âme apaisée, satisfaite et agréée.
C'est la psychologie coranique.
Une toute dernière question, puisque nous approchons du terme de l'émission, Éric Geoffroy. Nous voyons dans l'ouvrage de Sayyid Hossein Nasr le symbolisme de la croix. Disons que dans l'axe vertical, le fait de monter, on se rapproche donc du divin, on peut aller encore plus bas que bas, et a aussi le fait de se disperser sur l'axe horizontal. En dépit d'une certaine réticence pour certains musulmans d'un rapport à la croix, pour X raisons, il y a ce symbolisme qui est fort dans la tradition soufie.
Tout à fait. Alors ça, d'abord, c'est le titre d'un livre assez connu, donc de René Guénon, donc le symbolisme de la croix, et qu'il prend, il le dit en ouverture, donc de son cher, donc un cher Shazili. Alors juste une parenthèse, Sayyid Hossein Nasr, René Guénon et moi à mon petit niveau également, mais et bien d'autres.
Vous êtes dans la filiation.
Voilà, nous sommes de cette famille donc spirituelle, donc de la Shazilia, qui est une des grandes voies mères, ce qu'on appelle née au XIIIe siècle. Et donc le cher donc de Guénon, donc Abdelrahman el-Alish, parle du symbolisme de la croix. Et de fait, moi, je présente donc le soufisme comme étant à l'intersection précise entre la verticalité de cette sagesse, de cette sainteté générale, je dirais humaine, donc universelle, qui va s'incarner dans le corps religieux horizontal, entre guillemets, de l'islam, comme il s'incarnait auparavant, historiquement, dans le corps religieux donc du christianisme, du judaïsme, de l'hindouisme, etc. Hein, et parce qu'il faut voir ce que vivent, au moins durant les deux premiers siècles, donc les premiers spirituels de l'islam, pas encore des fois soufis au sens technique, ils expérimentent la sainteté universelle. Voilà, enfin, mais avec une profusion incroyable dans cette nouvelle matrice spirituelle et religieuse et dogmatique qu'est l'islam. Quand je dis dogmatique, c'est-à-dire qui donne un enseignement, voilà, sur le credo, sur ça. Et donc, il y a cette profusion en eux de la sainteté, hein, avec ces différentes typologies, hein, avec cette, voilà, donc cette expérience. Et ces gens-là, ils ont balisé la voie pour nous jusqu'à nos jours, hein, et donc il y a un patrimoine, il y a un ADN spirituel, et c'est pour ça qu'une tariqa, c'est pas une confrérie, ce mot confrérie est un peu dévoyé, ce sont des familles spirituelles, et très souvent, une famille, pour un initié dans telle ou telle famille spirituelle, la famille spirituelle l'emporte sur la famille héréditaire, charnelle. Non pas que l'initié, entre guillemets, renie sa famille de charnelle, donc d'incarnation, mais sa famille spirituelle est sa vraie famille, parce que ce sont des gens qui sont vivants. Hein? Et pourquoi ? Parce qu'ils se relient au prophète et qui est vivant parmi nous.
Merci infiniment. Merci beaucoup, Éric Geoffroy. C'était Question d'Islam. Vous retrouverez, chers amis auditeurs, toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est Sylvia Favre. La prise de son est assurée aujourd'hui par Jean-Michel Coqui. Et la réalisation est toujours assumée avec brio par l'ami Franck Lilin.